Il y a une histoire du temps du Bouddha que j'affectionne particulièrement et que j'aime bien raconter. C'est peut-être une histoire que vous connaissez, mais il y a un personnage qui s'appelle Rohitasa de l'époque. C'est ça se passe au temps du Bouddha. Et Rohitasa, c'est une jeune personne qui est dans une quête spirituelle, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, qui est très vivant, l'image, j'associe Rohitasa à Puck dans un personnage du Songe d'une nuit d'été, qui est assez androgyne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui est très vif, très créatif. J'ai toute mon histoire intérieure quand je lis ce texte-là. Mais il y a un moment où Rohitasa a la chance d'avoir un échange avec. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Où Rohitasa a la chance d'avoir un échange avec le Bouddha. Ça, c'est cool, comme on dirait chez nous. Ça arrive pas à tout le monde, à toutes les époques, de pouvoir avoir un petit échange avec le Bouddha. Rohitasa arrive devant le Bouddha, puis là, il fait une prostration, quelques gestes de respect. Et là, il demande au Bouddha, il pose une question au Bouddha qui est assez surprenante. Il demande, est-ce que c'est possible, j'ai une question pour vous, est-ce que c'est possible, en voyageant, d'atteindre la fin du monde? C'est ça la question que je me pose. Comme vous êtes sage, je me suis dit que je pourrais vous poser la question à vous. Et là, le Bouddha, lui, répond, avec le grand calme qu'on lui connaît, il répond, non, Rohitasa, c'est pas possible en voyageant d'atteindre la fin du monde. Et là, Rohitasa dit quelque chose comme, c'est assez près du texte, il dit. Ah oui, excusez-moi. Alors, Rohitasa, quand le Bouddha dit non, c'est pas possible en voyageant d'atteindre la fin du monde avec ses pieds, Rohitasa dit ah, c'est incroyable, c'est fantastique, je suis épaté, je suis ébaubi, je suis flabbergasté. Je vous pose la question très simplement, puis vous me répondez très simplement non, c'est pas possible en voyageant d'atteindre la fin du monde. Et c'est vraiment étonnant parce que moi, il y a plusieurs années, je m'étais posé la question. Je me posais la question et j'ai décidé de voir pour moi-même si c'était possible ou pas. Et là, c'est pour ça peut-être que j'associe Rohitasa à Puck. C'est un être spécial que certains pouvoirs psychiques apparemment. Et dit, moi, j'étais tellement puissant qu'en faisant un seul pas, je pouvais passer de la mer de l'Est à la mer de l'Ouest. Alors, en faisant un seul pas. Et je me suis dit, si quelqu'un arrive à pouvoir atteindre la fin du monde en marchant, c'est bien moi avec mes pouvoirs surnaturels. Et dit donc, j'ai décidé de marcher. Et j'ai marché, marché, marché sans m'arrêter pendant 100 ans. On peut s'imaginer la distance parcourue. Et même ça, c'est dans le texte, j'aime bien, il dit, sauf, parce qu'il y a un souci d'honnêteté dans son rapport au maître de... il dit, sauf pour prendre des petites pauses, pour dormir un petit peu, pour aller à la toilette et pour manger. C'est dans le texte de l'époque. Sinon, j'ai marché sans cesse et je n'ai jamais atteint la fin du monde. Parfaitement étonnant. Et là, je vous demande à vous, et vous me dites non, même si tu avais pu marcher encore 100 ans, tu ne serais jamais arrivé à la fin du monde. On ne peut pas, en voyageant, arriver à la fin du monde. Alors, je suis épaté, ça concorde avec mon expérience, ça marche. Et là, c'est là où l'histoire, pour moi, est très intéressante. Le Bouddha dit ces quelques paroles que je trouve profondes. Ça va bien avec le personnage aussi, de dire des choses profondes. Alors, il dit, oui, c'est vrai, Rohitasa, que je dis que c'est impossible en voyageant d'atteindre la fin du monde, mais je dis aussi, et sois attentif, je dis aussi que c'est impossible, sans atteindre la fin du monde, de mettre fin à la souffrance. Et C'est dans ce corps, long de cette longueur, deux bras. Alors, c'est dans ce corps, long de, voyons, longueur de deux bras, que se trouve le monde, sa naissance, sa fin et le chemin vers la fin de ce monde. C'est dans ce corps avec, il dit, c'est dans ce corps avec ses perceptions et sa conscience que se trouve le monde, le commencement du monde, la fin du monde et le chemin vers la fin du monde. Ce qui me touche là-dedans, ce que j'entends, là, c'est qu'on parle exactement de la pratique qu'on fait ici. On s'assoit ici, on devient attentif et le monde, sa fabrication, nous est révélé. Quand plus tôt je disais, on a un moment où il y a un contact avec la réalité, contact visuel, auditif, du goût, etc. Et puis tout de suite, il va y avoir un monde qui va être créé. Hein? Je trouve que il fait beaucoup trop froid en octobre, cette température-là devrait être en novembre, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais il y a un moment de contact avec la réalité, il y a un monde qui est créé. On entend un bruit, mais pourquoi cette personne bouge? Elle est dans le chemin de ma méditation profonde, ou quelque chose comme ça. Un moment de une image mentale traverse l'esprit et, par exemple, une pensée généreuse traverse l'esprit. Ah, je ne sais pas quoi, je vais faire tel geste généreux. Et tout à coup, création d'un monde, je suis généreux, j'ai toujours été généreux, je suis une personne généreuse. Ça vient de ma famille, on est comme ça chez moi. On est généreux, etc. Hein? Alors, il y a la création. Alors, moi, quand je m'assois pour méditer, j'ai l'impression de comprendre un peu ce que le Bouddha voulait dire. C'est mon interprétation, peut-être, vous allez dire, mais il dit, c'est dans ce corps-là qu'on peut atteindre la fin du monde, qu'on peut voir le commencement du monde. Puis donc, pour moi, ça parle, c'est ça, de cette pratique-là qu'on fait, puis de pourquoi on ferait cette pratique-là. On voit comment est-ce que... Il y a tout un univers qui est créé, qui est de l'imagination, qui est de la génération de l'esprit, là. Puis comment on peut s'éloigner et se retrouver dans le trouble autour de ces constructions-là. Alors, je peux, par exemple, être assis ici et me dire, je peux être pris dans ce que moi j'appelle une transe, là. Alors, il y a des pensées, je ne suis pas au courant que la production de pensées, qu'il y a une sensibilité à la porte d'un sens, là, que le mental, sixième sens dans le bouddhisme, reçoit des images. Je ne suis pas du tout au courant de ça. Je suis un peu dans la folie. Je suis dans les pensées, comme dans un monde un peu. Là. Puis, imaginons que la pensée qui me vient, ou le genre de pensée qui m'habite, est « je veux être aimé de telle personne, par exemple. » Ou « je veux être reconnu par mon milieu. » Un truc comme ça, je veux obtenir quelque chose de quelqu'un. Alors là, je peux être assis ici pendant la méditation, je me dire comment est-ce que je pourrais faire pour que tel groupe de personnes ou telle personne me voie vraiment pour qui je suis et puisse vraiment me... Alors je peux être vraiment dans cette histoire-là, ça peut me miner, ça peut m'habiter, m'agiter, me stresser, etc. Et là, je suis un pas à côté de la méditation. Je suis dans ce que moi, personnellement, j'appelle la transe. Je suis dans la transe d'un monde fictif. Et là, si je reviens au monde de la méditation, à la pleine conscience, puis que j'entends, par exemple, le prof qui, dans la méditation, vient déranger mon monde un peu avec son instruction, là, en guidant. Hein. Alors là, j'entends une voix de loin qui me dérange. Arrête! Je suis en train de voir qui je suis exactement, qui je serai, qui je pourrais être, et qui je suis pour telle autre personne ou tel autre groupe. Arrête de parler, ça me nuit. Mais à ce moment-là, le prof peut-être dit, qu'est-ce qui est connu en ce moment? Ou à quelle porte, où est-ce qu'il y a une sensibilité là? Où est-ce que le monde entre? Par quelle porte? Et là, je découvre peut-être que, en fait, je suis en train de penser. Fin de la folie momentanée. J'étais dans la transe des pensées, j'étais pris dans mon monde, et tout à coup, je me rends compte que, ah non, c'était une fabrication mentale, j'étais dans l'imagination. Alors que j'étais vraiment, moi, dans ce monde-là, en train de lutter pour la reconnaissance. Mais là, tout à coup, je débarque dans le corps. Et puis là, je découvre quand on parle de la méditation, on dit souvent, c'est apprendre à voir la réalité telle qu'elle est. Connaître la réalité telle qu'elle est. Alors pour moi, ça serait un exemple de ça. Voir la réalité telle qu'elle est, c'est, ah, il y a la production de pensée. Il y a un monde qui est créé. Hein? Alors là, pour moi, ça, c'est sain. C'est en quelque sorte, la fin de l'ignorance, la fin de la transe. Je reviens à quelque chose de... Là, je peux découvrir qu'en fait, il y a la création d'un monde, puis la fin de ce monde-là, c'est juste de revenir à la réalité de ce qui se passe vraiment. Il y a la production de pensée. Alors, j'ai vu le monde, sa naissance, sa fin, puis le chemin vers sa fin. Puis là, tout à coup, oups, je peux être juste là. En étant juste ici, peut-être que ces pensées-là vont revenir. Oui, mais je dois absolument trouver comment cette personne-là pourrait me voir pour ce que je suis. Puis là, en voyant ça, je peux peut-être découvrir que, ah, mais dans ces pensées-là qui semblent si importantes, il y a une expérience immédiate de stress ou de manque ou de confusion ou de vouloir obtenir quelque chose. Okay. Et là, je peux peut-être... j'ai peut-être la possibilité de m'occuper de ça plutôt que de l'histoire fascinante. Mais ah, il y a un sentiment de manque, par exemple. Est-ce que je peux avoir une certaine présence à ça? Ah. Quand il manque quelque chose, c'est ça l'expérience. Puis faire la paix avec ce truc-là immédiatement. Je peux peut-être aussi découvrir que... Il y a plusieurs découvertes que je peux faire, mais... Une des découvertes que je peux peut-être faire, c'est que qui est ce moi-là que je veux qu'il soit aimé ou qu'il soit... À force d'y retourner dans cette transe-là, puis d'en sortir constamment, je peux peut-être découvrir, ça peut peut-être devenir apparent que ce personnage-là, que je veux qu'il soit aimé ou reconnu, c'est aussi une construction mentale. Si je prends moi comme exemple, le Pascal que je voudrais qu'il soit, c'est quoi ce truc-là? Ça m'intéresse toujours beaucoup. Parce qu'en fait, ce Pascal-là, pour moi, si j'ai ce genre de pensée-là, ça va être un genre de Pascal idéalisé. Ce ne sera pas la vraie version. Là. Ça va être, je veux qu'on voit un certain Pascal qui est une construction mentale complètement, qui n'a pas rapport avec la suite, de la fluctuation des choses qui se passent ici. Là. Enfin, c'est une des découvertes que je vois. Que j'ai une image d'un certain Pascal qui est une chose permanente, alors que l'expérience vivante que j'ai de Pascal, c'est une chose qui change constamment. Je ne sais pas si je l'exprime bien, là, mais une autre chose que je vois, par exemple, c'est que je peux peut-être devenir, que je peux peut-être clarifier pour moi, c'est que, par exemple, cette reconnaissance-là, c'est juste l'exemple que j'utilise, ça pourrait être autre chose, mais cette reconnaissance-là, en étant attentif, en amenant de la pleine conscience à ce moment-là, mais à plein d'autres moments dans ma vie, là, je pourrais commencer à voir qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement instable. Alors que quand moi, je suis pris dans ma transe, la reconnaissance, c'est quelque chose de permanent et stable. Une fois que je vais avoir la reconnaissance de cette personne-là ou de ces gens-là, alors je suis dans l'illusion, je suis dans l'ignorance, je suis berné, je suis... il y a une perversion des perceptions, on pourrait dire. Alors je perçois les choses comme possiblement stables dans la vie, comme la reconnaissance. Alors que si je suis attentif, ça me permet de clarifier que, ah, la reconnaissance ou le... C'est quelque chose de... ou l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement instable. Ça change. Puis que si je l'avais un moment, si je suis attentif, je vais pouvoir voir que là, le nouveau stress, ça va être de garder, maintenir, ne pas décevoir, obtenir à nouveau. Puis donc, c'est avec la pleine conscience que je commence à voir les choses telles qu'elles sont. Je commence à voir que les choses sont... Dans mon monde fictif, les choses ont la possibilité d'être permanentes, parce que c'est un monde conceptuel où est-ce que je peux présenter les choses comme permanentes. Si telle personne m'aime, c'est réglé, c'est permanent. dans la vie réelle, je suis attentif. Les choses sont plus changeantes que ça, hein, et conditionnelles. Alors que ce soit l'amour, la reconnaissance, obtenir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je suis sûr que vous pouvez peut-être avoir votre propre version personnelle, ou même quelques-unes, versions personnelles d'un truc comme celui-là. Mais dans la pratique qu'on fait, souvent on parle de quatre perversions des perceptions. Alors, une que j'ai nommée là, c'est une perception de permanence qu'on a. Ça, c'est les pensées peuvent créer cette image-là d'un Pascal solide, d'une autre personne exactement comme ça, de situations qui peuvent être comme ça, ou d'émotions, d'une impression de permanence. On se dit, si je pouvais acheter tel appartement à tel prix, mes problèmes de genevois seraient réglés. Là, on a l'idée que s'il y avait ça, ou ce boulot-là, ou ce truc-là, je ne sais pas c'est quoi exactement, que là, tout à coup, ça serait permanent, de façon permanente réglé. Et c'est par l'attention qu'on voit qu'en fait, c'est pas l'expérience immédiate, c'est pas comme ça. C'est qu'on est assis ici, puis que les choses sont impermanentes. Le calme qui passe, passe. La qualité d'être impermanent. Le sentiment de générosité aussi, la qualité d'être impermanent. Il est suivi peut-être par la peur de manque. Que les choses sont changeantes, comme ça, fluctuantes. Alors ça, c'est une des... c'est le bon mot que j'utilise, perversion des perceptions. Alors une autre chose que je corrige aussi tranquillement, ça a l'air d'une vraiment très mauvaise nouvelle aussi. Mais en fait, c'est drôle parce que ces corrections-là qu'on fait à nos perceptions, ce sont des corrections libératrices. Alors une autre illusion que je peux avoir ou une autre folie que je peux avoir, c'est que quelque chose du monde des phénomènes pourrait être satisfaisant d'une façon profonde ou durable, ou qu'il va y avoir la satisfaction. Mais comme il y a l'impermanence, il y a aussi l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire complètement. Et ça, c'est dans l'attention soutenue que je peux voir ça, que je peux voir que les choses passent, changent, sont conditionnelles, fluctuantes, instables, incertaines. Et donc, n'ont pas la capacité de satisfaire complètement. Imaginez, je suis assis ici, là, je suis passé du doute, qu'est-ce que je fais ici, à l'agitation, il faudrait que je sois ailleurs, au désir d'être ailleurs, en tout cas, c'est un mélange d'états mentaux difficiles. Là-dedans, il y a plein de perversions, de perceptions, parce que je pense, c'est pas ici que ça se passe, c'est ailleurs, en fait, c'est au pub avec mes amis, c'est là, j'aurais dû m'inscrire à ça plutôt qu'à une journée de méditation, ou... Alors là, j'ai l'illusion que là-bas, ce serait vraiment satisfaisant. Voyez-vous ce que je veux dire? Et que là, ça serait vraiment, il y aurait ça. Alors, je passe à ça. Ensuite, j'ai peu d'énergie, j'ai peu d'intérêt. C'est difficile de connecter avec la réalité. Il y a plein de trucs comme ça. Puis là, à un moment, ça se calme, ce truc. Et là, ça devient très, très calme dans l'esprit. L'esprit connecté avec la réalité. C'est très, très simple. C'est très, très beau. Même quand les gens bougent, ça fait partie de mon... Il n'y a pas de rejet de la réalité, là. Il y a vraiment... Ça bouge, c'est inclus dans l'univers, là. Il n'y a pas de positionnement. Non, on ne bouge pas. C'est juste comme... Ça bouge, ou il y a des sons ambiants, des voitures qui passent. Puis tout est intégré tout à coup. Puis il y a quelque chose de extraordinaire qui se passe, là. Je suis juste assis là, c'est la même chose ordinaire mais la qualité de mon esprit est telle que c'est bien reçu. Puis là, il y a une accalmie, une certaine paix, une liberté qui est là. Et tout à coup, perversion des perceptions, c'est ça! Je veux garder ça! Ou je le vois passer. Je vois que ça dure pendant 5, 6, 7 minutes. Puis là, tout à coup, oups, il y a quelque chose qui se resolidifie dans l'esprit, là. Puis il y a un genre de. Je suis éloigné de la méditation que je voudrais expérimenter, là, que je voudrais vivre. T'sais. Tout à coup, ça redevient un peu plus ordinaire, douloureux dans le corps, etc. On voit la fluctuation des choses. Ça nous permet de voir qu'il n'y a aucun phénomène qui va être parfaitement satisfaisant parce que conditionnel et impermanent. Donc, je corrige cette perception-là que j'ai de la réalité. dans quel sens est-ce que d'apprendre de façon pénétrante, là, de façon expérientielle, est-ce que je pourrais dire ça, empirique peut-être, en voyant les choses passer, en voyant que les états mentaux, même les plus beaux, passent, esprit dégagé, un cœur ouvert, appelez ça comme vous voulez, que ça aussi, ça passe, ça pourrait être décevant, ça pourrait être désappointant, hein, ça pourrait être « Ah, merde! » Mais en fait, le côté libérateur de ça, c'est que je vois que « Ah, je peux même pas m'accrocher à ça, en fait. Si je m'accroche à un certain état mental, je deviens un peu esclave de ça. Est-ce que je vais le revoir? Qu'est-ce qui va faire que ça va revenir? Ça devient douloureux ou compliqué comme situation. » Alors, voyant que les choses sont fluctuantes, qu'il n'y a rien qui satisfait vraiment, je peux développer une relation aux événements qui soit équanime, stable, équilibrée. En fait, ma compréhension des choses, c'est que je m'aligne tranquillement à la réalité, à la nature des choses. Au lieu d'exiger que quelqu'un, qu'une situation, qu'un lieu, qu'un état mental soit satisfaisant, durable, permanent, je m'attends plus à ça. Alors, je peux vivre avec un petit peu plus de grâce, voyant que ah, les choses sont incertaines, changeantes. Je peux laisser tomber corriger cette fausse perception-là. Alors, ces quatre perceptions-là sont reliées les unes aux autres, hein? La permanence, la satisfaction, ces illusions-là, le désirable ou le beau. J'ai l'impression que quelque chose est vraiment, vraiment désirable. Est-ce que vous avez déjà eu ça dans votre vie? On pense que c'est désirable. C'est pas un amalgame de circonstances. C'est pas quelque chose de passager. Cet objet-là, robe, personne, coussin de méditation, est vraiment, réellement désirable. Pour se rendre compte qu'après un moment, c'est toujours le même truc, mais maintenant que je l'ai acheté, par exemple, je vois que ah, ça tombe pas aussi bien. J'aurais voulu que ça tombe. Je prends un exemple très superficiel, par exemple, mais c'est comme ça. Puis là, on voit qu'il peut y avoir une perversion. Alors, les états mentaux difficiles qu'on vit sur le coussin et dans la vie, non seulement ils sont difficiles à vivre, mais en plus ils altèrent nos perceptions. Ça, c'est très intéressant. C'est une des raisons pourquoi on veut être pleinement conscient de ce qui se passe pour pouvoir voir ces altérations-là. Alors, le désir de quelque chose va projeter sur l'objet une satisfaction. Une satisfaction potentielle durable, alors que l'objet lui-même, le truc lui-même sur lequel je m'accroche, n'a pas cette capacité-là de fournir ça. Mais ça va me paraître vraiment comme ça. Si j'ai le iPhone, ce serait un exemple peut-être pas ici, ça marche peut-être pas aussi bien qu'en Californie. En Californie, je dis ça, puis les gens me disent « Non, le iPhone, il est vraiment satisfaisant. » Tout, mais pas l'iPhone. Ou la version améliorée de moi-même, le Pascal qui n'aurait pas de trou de mémoire ou de perte de conscience pendant qu'il enseigne, le Pascal qui serait un peu plus comme ci ou comme ça. T'sais. Ça serait vraiment satisfaisant. T'sais. Puis là, vous allez me dire, touche pas à ça, c'est vrai que la version améliorée de moi-même serait vraiment satisfaisante. En devenant attentif, on voit là, ces choses-là sont révélées. Alors la permanence, la satisfaction, le beau, le désirable, c'est pas quelque chose qui est inhérent dans la chose elle-même, c'est une perception qu'on a des choses. Je lisais, je vais oublier son nom, une prof zen qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est triste. La version améliorée de moi-même n'aurait pas ce moment-là. Je crois que Cohen, son nom de famille, mais... Enfin, je lisais dans un article un des magazines bouddhistes où elle parlait d'équanimité. Pardon? Ah, le micro n'est... Et maintenant? Et maintenant? Ah! J'avais essayé de monter le volume, je suis désolé. C'est là qu'on voit que la réalité est de nature insatisfaisante. Non, non, je blague un peu, mais en fait, je blague pas du tout. C'est incroyable comment la réalité souvent s'éloigne de ce qu'on veut. On voudrait une réalité où tout le monde entend bien, puis là, ah, ça fonctionne pas, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'on n'intervient pas, là, c'est vraiment bon de faire comme ça marche pas du tout, en fait. Mais la liberté qu'on recherche dans le bouddhisme, c'est une liberté inconditionnelle, hein. Alors ça implique, c'est une liberté où est-ce qu'on peut même être séparé de ce qu'on veut. On voudrait quelque chose qui soit différent, un peu mieux, une version améliorée de la réalité. Puis c'est possible qu'on l'obtienne, c'est possible qu'on l'obtienne pas, ou c'est possible qu'on l'obtienne pour un moment. Mais c'est quand même quelque chose. Le Bouddha semble proposer que c'est possible d'avoir une liberté qui est inconditionnelle, qui n'est pas conditionnée au fait que j'obtienne ou que j'obtienne pas ce que je désire. Alors, bon, où j'en étais?
Avec...
Pardon? Ah oui! Alors, elle, dans un article d'un magazine bouddhiste, merci, c'est vraiment un travail de groupe, hein? L'enseignement, ça se réalise à plusieurs. Alors, elle disait quelque chose qui était vraiment beau. C'est une version, je dirais, peut-être personnelle de l'équanimité, mais elle disait quelque chose comme, quand on laisse tomber nos préférences pour les choses, je pourrais peut-être commenter là-dessus après, mais quand on laisse tomber nos préférences pour les choses, tout se met à ressortir avec son... je traduis là en même temps. Se met à apparaître avec son incité, hein, ou sa telléité, exactement tel que c'est. Pas à travers le tel que ça pourrait être, ou tel que ça devrait être, mais tel que c'est. Puis elle disait, de cette façon-là, c'est sûr qu'évidemment les arbres, les fleurs deviennent d'une certaine façon resplendissantes. Mais, puis ça c'était dans le texte, elle disait ça, mais aussi les bouteilles de bière et les fours micro-ondes ou les iPhones. Tout se met à être brillant de telléité, de incité. C'est exactement, uniquement comme ça. Ce moment-là, ce moment-ci, est exactement tel qu'il est. Même un moment où, par exemple, avec quelqu'un, on ne se comprend pas. Il y a une mésentente ou un malaise, par exemple. Ça a exactement cette texture-là, ce moment-là, tel que c'est. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire quelque chose pour essayer de réparer ou qu'on se comprenne ou quelque chose comme ça, mais il y a une acceptation profonde que ah, ça se manifeste, la vie se manifeste exactement comme ça en ce moment. Je ne sais pas comment je fais le lien, là, mais pour moi, il y a comme dans la correction de ces perversions-là de... Tout à coup, les illusions tombent sur ce que je pourrais obtenir, comment ça devrait être, tout ça. Puis là, je peux rencontrer le moment d'une façon libre et dégagée, tu sais. Même si imparfaite. Puis la dernière, là j'ai nommé seulement trois des perversions. La dernière perversion, c'est encore une fois, elles sont toutes attachées les unes aux autres ou fonctionnent un peu ensemble. L'autre, c'est l'illusion de la capacité de posséder ou de s'identifier à quelque chose, d'être quelque chose, de pouvoir se définir par quelque chose. Alors, le anatta, ça touche au non-soi, là. Alors, quand je vois que les choses sont fluctuantes, conditionnelles, je vois aussi en même temps que, ah, je ne peux pas vraiment posséder quoi que ce soit. Dans mon monde, dans ma fiction, ma transe, je peux vraiment obtenir quelque chose, je peux vraiment posséder quelque chose dans mon monde conceptuel, dans mes idées. Je peux, j'ai cette capacité-là, mais c'est pas la réalité, là. On est quelques pieds mètres à côté de la réalité. Dans ce monde-là, je peux vraiment devenir obtenir quelque chose d'une façon durable, que ce soit mien, moi, à moi. Mais plus je suis attentif, plus je développe de la pleine conscience, plus ça devient clair que il n'y a rien que je peux vraiment m'approprier. Dans mes rêves, dans mes idées sur les choses, je pourrais avoir, je peux même avoir ma jeunesse pour toujours. Par exemple, une version vraiment folle de la réalité. Je resterai jeune. Ben, là, je suis plus jeune, c'est fini à cette époque-là. Mais... Par exemple, ou ma santé. Ma santé, ma santé. Ça peut vraiment être ma santé dans mon monde pensé. Mais le jour où j'arrive chez le médecin et qu'il me donne un diagnostic, là, je vois que, ah, c'était pas vraiment ma santé. Il y avait de la santé dont je pouvais bien m'occuper, mais c'était pas ma santé. Hein? Alors, une des perversions des perceptions, c'est que les choses nous apparaissent comme étant vraiment miennes. Mon époux, enfant, appartement, travail, je suis un, une, quelque chose comme ça. Puis là, vous remplissez le truc. Puis là, quand les conditions changent, tout à coup, on découvre que, ah, j'étais pas vraiment ça. C'est-à-dire que je me définissais d'une telle façon, mais en étant attentif, je peux peut-être voir qu'en fait, non. Les conditions font que je suis une infirmière, par exemple. Mais que c'est possible qu'un jour, ça ne soit plus une réalité, une façon de décrire que c'est quelque chose qui était momentané, conditionnel. Voyez-vous un peu ça? Ça, c'est... je ne sais pas si je le refile bien, si j'en parle bien, mais là, on est dans les pensées bouddhistes les plus profondes. Puis ce n'est pas seulement des idées, là. Pour moi, on touche vraiment à l'essence de notre souffrance. Puis là, le Bouddha disait à Rohitasa, c'est dans ça, là, ce truc-là qui s'assoit sur ce coussin-là ou qui va faire la marche méditative, c'est là-dedans que se crée un monde de moi, mien, à moi, par exemple. Puis c'est là-dedans qu'il faut clarifier que non, c'est pas mien, moi, à moi. Ma générosité, ça s'applique pas. Il y a la présence de générosité parfois. Ça peut être possible de cultiver ça, d'agir là-dessus, mais je peux pas vraiment me définir par ça. Mais je peux reconnaître que c'est présent. Alors, le Bouddha semble dire que c'est une bonne chose de s'asseoir puis d'observer ça pour clarifier comment on crée un certain monde. Parce que sans voir cette création-là, puis cette affaire-là qui s'écroule aussi, qui peut s'écrouler, sans voir tout ça, j'arriverai pas à la fin de la souffrance. Alors, c'est pas en voyageant qu'on arrive à la fin du monde, mais sans arriver à la fin du monde, il n'y a pas la fin de la souffrance. Alors, peut-être prendre quelques minutes juste pour parler de ça de façon très, très pratique pour moi. C'est par exemple, quand je vais faire la marche méditative, quand je ralentis un petit peu le rythme, ce qui n'est pas absolument nécessaire, mais si, quand moi, je le fais, ça m'aide, je ralentis un peu le rythme. Puis là, je deviens attentif aux sensations de mouvement ou de poids. Quand je lève le pied, je soulève le pied, il y a une certaine légèreté ou une lourdeur ou quelque chose qui est connu. Puis que je pousse le pied vers devant, puis que je pose le pied. Au moment de pousser le pied, je peux me rendre compte que le moment de soulever le pied, mais oui, il est passé et en plus il est inexistant. Il n'y a plus cette expérience-là, complètement disparue. Il y a eu une petite mort, on pourrait dire. il y a quelque chose. Puis ça rentre en contact avec ma définition de Pascal. Pascal étant celui qui a levé le pied. J'ai comme une drôle d'impression. Tout à coup, je vois la perversion de mes perceptions. Que je vois que cet événement-là est complètement disparu. Je le fais à plein de moments dans ma pratique, au moment de sonner la cloche, parfois, comme ça, à la fin de la méditation. Je sonne la cloche. Puis là, j'essaie d'être très attentif aux sensations qui sont là, ici. Puis quand j'arrive là, ces sensations-là sont. Cette expérience-là de la vie est complètement disparue, inexistante. Je peux retourner pour avoir l'illusion que j'y suis retourné, mais je ne suis pas retourné du tout. C'est une nouvelle expérience. Mais quand je fais ça comme ça, ou à la fin de la méditation, quand je fais comme ça, je baisse les mains, puis je vois que cette expérience-là a complètement disparu. Complètement disparu les pensées que j'avais après le lunch en mettant mes fesses sur le coussin. Complètement disparu le moment où j'ai ouvert la porte. Complètement disparu le moment où je tenais la tasse de thé. Complètement disparu le moment où je me demandais si j'étais adéquat, là où j'étais dans l'espace, ou si je nuisais, j'étais une nuisance, ou si j'étais accepté dans l'espace de l'autre côté. Ces événements-là sont complètement disparus, les uns après les autres. C'est par l'attention que je peux voir ça. Ben, ça me dégage beaucoup, c'est beaucoup moins de poids à porter, parce que c'est disparu, complètement disparu. De cette façon-là, je peux toucher à l'impermanence un peu plus, de façon directe. Puis je vois que, ah oui, cette illusion, cette. Je sais pas si c'est le bon mot, perversion, parce qu'il y a une. En tout cas, cette illusion-là de permanence, c'est vraiment. Le mental refabrique ça constamment. Il crée un monde constamment de Pascal qui a une durée, Pascal qui est. Puis au moment où il y a une expérience de perte, une expérience de quelque chose tombe par laquelle je me définissais, tout à coup je suis étonné, je suis surpris, je suis en choc, je dois faire un deuil, il y a tout un processus parce que je n'étais pas exactement aligné avec la réalité de l'impermanence. Pour moi, je pense que c'est un bon travail à faire un samedi, un dimanche par saison. Pour me préparer pour me libérer dans l'expérience de la perte, pour corriger mes fausses perceptions de la réalité. Je peux voir ça, je peux attraper l'esprit qui projette sur la semaine prochaine. Il va y avoir satisfaction quand telle chose va arriver. Si telle chose arrive, il va y avoir satisfaction. Je peux juste voir comment l'esprit projette de la permanence, de la satisfaction, de la définition de soi constamment. Puis peut-être relâcher ça, relâcher ça, relâcher ça. Puis trouver une version plus simple. Puis je pense que ce que dit le Bouddha ou Arohitasa, c'est un peu. On est un peu dans ces eaux-là, là, je crois. Puis c'est à voir pour soi-même que c'est. S'il y a quelque chose là-dedans qui vous intéresse ou qui pourrait être aidant, bénéfique pour mon bien-être à moi et pour celui des autres, là. C'est comme ça qu'on pense à ça. Si je fais ce travail-là de clarification, c'est vraiment pour un seul but, c'est que ça me soit bénéfique à moi et aux autres. Je ne sais pas si on pourrait peut-être prendre quelques minutes s'il y avait des questions à propos de sa clarification. On voit que ça prend une attention soutenue. Hein? Pour entrer dans le champ dans ce dont je parle, là, ça prend vraiment une attention. Sinon, l'esprit ordinaire, habituel, il est dans le monde des concepts. Je m'habille, je dors, après ça, je vais revenir, ça devrait finir vers s'il fait comme Patricia et Charles, ça va finir vers moins quart. Ça va me prendre à peu près 30 minutes, arriver à la maison. Tout ça, c'est très moi, solide, moi. C'est un niveau de réalité conventionnelle, c'est très bien de l'avoir. Là. Comme Jack, dont on parlait tout à l'heure, dit souvent, c'est important d'avoir l'esprit vaste et clair, mais aussi de se rappeler de son code postal. Mais nous, j'ai l'impression que souvent, on est, pour utiliser cette image-là, on est pris dans notre code postal. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui a un code postal, qui existe, qui a une histoire, qui veut des choses, qui pourrait être meilleure, qui pourrait être autre, tu sais. Puis là, tout à coup, on s'arrête, puis on entre dans le champ de la méditation. De toute façon, tout à coup, on devient attentif, puis là, on entre dans un autre monde. C'est le monde de l'éphémère, le monde du passant, disparaissant. Chaque respiration disparaît, chaque inspiration disparaît. L'attention devient encore plus menue et on voit que même ce que j'appelle une inspiration, c'est pas quelque chose qui est vraiment existant, que le début de l'inspiration n'existe jamais au même moment que la fin de l'expiration, que c'est en fait ces deux événements que je colle ensemble. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis là, ça paraît anodin, mais je vois comment j'applique ça à toute ma vie, que j'ai l'impression que c'est ma colère, comme c'est quelque chose de solide qui est toujours là, puis qui apparaît et disparaît, alors que c'est un événement momentané qui apparaît. Puis je me définis, je suis colérique, je suis généreux, je suis intelligent, j'ai de la mémoire. Alors que, il y a la présence de mémoire, puis c'est possible que ça soit changeant. Ce dont je parle là, ça se veut être un peu comme pour alimenter notre curiosité. Peut-être on peut... Et ultimement, ça se voudrait être libérateur. Alors, si ça vous paraît comme des mauvaises nouvelles, c'est parce que j'ai pas bien fait mon boulot, ou il y a un passage, là, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Là. Mais et pour moi aussi, quand on parle de ça, il y a quelque chose de précieux qui ressort, comme que le moment est très précieux parce qu'il est éphémère, il est passant. J'ai le goût de bien m'occuper du moment, sachant qu'il est incertain, que j'ai le goût d'être vraiment là, de vraiment bien le sentir, le goûter ou puis bien le l'honorer, on pourrait presque dire.
Une vieille question avec ce goût d'être très présent, d'être présent, simplement à ce qui est, à ce qui passe. Il y a plusieurs fois que j'entends ce que vous nous dites aujourd'hui sur la permanence, la construction des pensées. Et plus je l'entends, plus il me semble que je suis de plus en plus débutant dans tout ça. J'ai entendu la construction, les constructions mentales, ces choses qui n'existent pas. Et puis alors, l'agitation, c'est aussi une construction, cette agitation permanente des pensées qui nous traversent. C'est aussi une construction.
Oui, c'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai pour que ça soit plus. Que vous décidiez si ça s'applique à vous pour que vous soyez libre, mais. J'ai l'impression que j'ai une compréhension du monde qui est un peu faussée. Comme elle est un peu faussée, c'est un peu stressant, alors il faut que je me raconte l'histoire constamment. Il faut que je maintienne en vie ces illusions-là, que je corrige tous les endroits où s'il y a comme des indications que ça ne marche pas, ce truc-là, tu sais. Alors, ça crée une sorte d'agitation. Je suis très occupé à me raconter l'histoire tu sais, je veux de la sécurité, j'ai l'illusion de la sécurité, mais il faut que je travaille très, très fort pour essayer d'imaginer une certaine sécurité, puis comment je veux la stabiliser, l'obtenir, etc., tu sais. Ça m'occupe énormément. Alors que si j'apprends à écouter la réalité, puis qu'elle me dit, écoute, les choses sont vraiment incertaines, et que je développe de l'acceptation pour ça, que je m'aligne avec la réalité telle qu'elle est, moi, ce que je semble voir, c'est que tout à coup, cette agitation-là peut tomber. C'est sûr que ça demande énormément d'activité mentale pour maintenir une idée fausse de réalité. Mais si je la corrige, je peux peut-être me détendre un peu. dedans. Je ne sais pas si ça touche à quelque chose ou pas. Mais peut-être pour les mêmes raisons, pour d'autres raisons, mais je suis d'accord avec vous, l'idée de trouver de plus en plus que je suis un débutant, là, j'ai ce feeling-là, parce que avec la conscience se révèle de plus en plus les méprises que j'ai. Puis là, je suis épaté, on appelle ça « inside progress ». Ah merde! Là, j'étais vraiment dans l'illusion, tu sais, je le savais pas, mais là, oups, le voile s'est poussé pendant une seconde, puis là, je vois que, ah oui, ça c'est... Je sais pas si ça concorde ou pas, là, mais... Merci.
Il semble, d'après ce que vous dites, que c'est des choses, certaines choses sont quand même profondes. Vous parliez tout à l'heure de deuil, et identification, donc c'est quelque chose qui est collé. Et lorsque ça se décolle, à un moment donné, un sentiment de liberté, et puis en même temps, un deuil, une perte de quelque chose.
C'est une. Vous voulez une. C'est complet ou...
Je ne sais pas si... Parce que vous n'avez pas évoqué ça.
Ah.
Il n'y a pas seulement des pensées, c'est des identifiés de simples pensées comme ça,
oui.
C'est des choses qui sont beaucoup plus profondes, ancrées. Je suis, je m'identifie à un rôle, une fonction, même une pensée, mais profonde. Je suis ci, j'ai vécu ça. Et au moment où peut-être on rencontre ça dans sa méditation, il y a quelque chose qui se décolle.
Avec la clarification.
C'est ça. Uh-huh. Et le fait de se décoller en même temps, c'est douloureux parce qu'on s'y accrochait pendant
oui.
des années. Et en même temps, c'est libérateur.
Oui, ouais. Ouais. Ouais.
C'est comme un processus. Voilà.
Ouais. Ouais. Double, c'est... avec le sentiment de perte de quelque chose, voilà. Mais la liberté qui est gagnée. Mm-hmm. Oui, puis c'est vrai que le mot profond s'applique bien parce que on parle vraiment de choses essentielles à notre construction du monde. L'identification, puis là, c'est pas juste l'identification à, par exemple, un rôle, mais l'identification, celui qui pense, c'est moi. Celui qui observe, c'est moi. Il y a une identification à un moment de... Puis donc, pour aller aussi profond que ça, c'est l'attention soutenue, l'attention délicate, je sais pas comment la nommer, une attention de raffinée, peut-être. Peut voir ces constructions-là, voir comment, ah, en fait, il y a de la conscience qui roule, ou je sais pas comment on décrirait ça exactement, et il y a une identification à ça. C'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être qu'il peut y avoir de la conscience sans qu'il y ait, ça c'est moi. Ok, je suis peut-être pas le corps, je suis d'accord, mais l'observateur, ça c'est moi. Ça va très loin, là on touche à peut-être la version la plus profonde de ça. Puis pour clarifier ça, pas de façon intellectuelle, mais vivante, là, on pourrait dire. C'est clair que ça va prendre une certaine qualité d'attention, puis peut-être aussi un certain investissement en termes de temps pour que ça soit révélé tranquillement ou clairement aussi, progressivement. C'est ça, dans l'enseignement, ce que je comprends, c'est qu'on dit, entre autres à ce sujet-là, que s'il y a identification, il y a un résultat de souffrance, de douleur. Alors ça, c'est intéressant de vérifier. Est-ce que c'est vrai ou pas dans mon expérience? Est-ce que je veux vraiment clarifier ça? Je ne voudrais pas qu'on croie à quoi que ce soit là-dedans, mais pour moi, ça fait lever la curiosité. Je veux être attentif, je veux voir où est-ce qu'il y a identification. Est-ce que c'est une bonne perception de la réalité? Est-ce que, en quoi est-ce que c'est, ça peut rendre les choses douloureuses? Mais peut-être juste un petit exemple. Si vous vous demandez, mais pourquoi on laisserait tomber, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Si par exemple je suis assis en méditation et il y a une pensée cruelle qui traverse l'esprit. Tu vas payer pour ce que tu as fait, que ce que tu m'as fait, le truc. Ou j'espère que tu vas payer. J'irai pas jusqu'à te faire payer moi-même, mais j'espère que la vie va te faire payer. une pensée de ce genre-là. S'il y a identification, ça va être très douloureux parce que ça fait de moi quelqu'un qui est méchant, cruel. Hein? Alors je suis cruel. Là, il y a un niveau de souffrance. Qui est plus élevé encore que si je peux reconnaître que, ah, il y a une pensée cruelle qui traverse l'esprit. On ne va pas agir là-dessus, on ne va pas entretenir ça, on ne va pas cultiver ce genre de pensée-là parce que ce n'est pas bénéfique pour moi ou pour les autres. Puis donc, il n'y a pas l'identification aux pensées, mais il y a la responsabilité, il y a la capacité de s'occuper, d'être pleinement conscient de ce qui passe dans l'esprit et d'agir ou de ne pas agir là-dessus. Mais pas d'identification. Moi, je vois, en tout cas dans cet exemple-là, pour moi, c'est clair là, qu'il y a une certaine liberté qui peut être gagnée sans l'identification aux pensées, par exemple. Et ceci dit, particulièrement par rapport à la perversion de l'identification ou l'appropriation, je pense que c'est Ajahn Chah, un autre maître très respecté, qui disait, si je ne me trompe pas, c'est lui qui disait, si vous pensez à ça, ça va faire craquer votre cerveau. Alors ne pensez pas à ça. On ne veut pas trop penser à ça. On veut être attentif d'une certaine façon où ça va être révélé que, qu'il y a identification ou non. Puis comment ça se passe? C'est quoi ce processus-là? C'est pas comme s'il fallait absolument s'en débarrasser, mais juste voir quand il y a identification. Parce que quand j'étais venu ici, il y a 2 ans, on avait parlé beaucoup de ça, entre autres l'identification aux opinions. Mon opinion, comment tout à coup on peut s'attacher à mon opinion, mon plaisir, puis à quel point il peut y avoir de la souffrance là-dedans. Mais donc, ce que je vais proposer, là, c'est qu'on aille faire une marche méditative. Puis pour être dans le champ de la méditation, je ne serai pas en train de réfléchir à ça, mais je serai en train d'être très attentif à ce qui se passe au moment où ça se passe, le corps qui se lève, qui se déploie dans l'espace, la rencontre avec le froid en ouvrant la porte, les pas au sol, puis d'être très attentif à ça, puis voir de cette attention-là, qu'est-ce qui va naître à partir de cette attention-là? Qu'est-ce qui va apparaître? Sans déjà réfléchir, analyser ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est vraiment la méthode qui est enseignée dans la méditation, c'est d'être très attentif, puis là on voit tout à coup que... Puis c'est drôle comment ça se passe, là. Ça peut être juste en mettant le manteau, tout à coup je suis dans les jambes de tout le monde, tout à coup on voit une identification, le je suis celui ou celle qui empêche tout d'aller bien dans le, autour des bottes et des souliers, tu sais. On peut voir ça. J'ai un petit exemple que j'aime bien, c'est une fois j'étais en retraite, puis peut-être certains d'entre vous m'avaient entendu raconter cette histoire, mais enfin, j'étais dans le hall, dans la salle à manger pour me servir pour le repas, puis là il y avait les ustensiles, couteau, fourchette, cuillère, qui était comme ça, avec juste le manche qui apparaissait comme ça dans des bols. Puis là, je suis venu pour prendre une cuillère pour ma soupe. J'avais le droit de faire ça. Et là, j'ai sorti une cuillère puis qui était une cuillère de service qui était grosse comme ça. Et tout à coup, j'ai vu, il y avait une drôle d'identification qui s'est passée. C'est tout à coup, je me suis senti coupable, toute mon avidité... Toute ma gourmandise était exposée. Je suis gourmand, je prends des cuillères immenses. C'était vraiment intéressant de voir comment, tu sais, tout à coup, il y avait... J'avais honte, je voulais disparaître. On avait vu que j'étais gourmand, alors que je voulais même pas une grosse cuillère. Je voulais une petite cuillère. Mais là, il y a une des perversions de l'esprit qui a été révélée à quel point il y avait une tendance dormante ou latente de se sentir coupable, de se sentir inadéquat, de se sentir laid d'une certaine façon, comme un être laid qui en veut trop, qui... déplacée, quelque chose comme ça. Puis cette tendance-là, à la première seconde d'inattention, était révélée, pas juste révélée, mais prenait forme, devenait manifeste en opération, tu sais. Puis comme ça, puis là, tout à coup, est-ce que je la cache ou comment je fais? C'est comme ça que les comédies au cinéma sont faites, hein. Alors là, c'était... Puis là, tout à coup, j'ai vu cette folie-là, tout à coup, qui avait une identification. C'était complètement tordu, le truc. Et là, c'est là où, tout à coup, il peut y avoir la possibilité d'utiliser une autre qualité de l'esprit, qui est ben, la bienveillance. Oh, c'est difficile, Pascal, là, ce moment-là, pour toi. Les choses ne se sont pas passées telles que prévues. Puis une certaine douceur, une certaine bienveillance, compassion pour l'être confus, là, qui ne sait plus... Puis bon, c'est rien, mais en même temps, c'est la pleine conscience qui a permis de révéler, c'est l'attention qui a permis de révéler cette formation-là du domaine de la transe, de la fiction, qui est problématique pour moi, pour les autres. Là, les gens attendent pour... Enfin, là, t'as quelqu'un qui est au milieu de... confus avec sa cuillère... Alors, pour le bénéfice de... Pour mon propre bénéfice et celui des autres, c'est une bonne chose si ce genre de construction-là peut être... on peut voir clairement ça, puis abandonner ça. Ah. Bon. Alors, je vous souhaite une bonne marche, puis on se retrouve ici à 4 heures pour une dernière méditation assise, si ça va pour vous. Merci.